Voilà, c'était juste le début de la sonate Köchel 310 pour nous la remettre dans l'oreille, jouée là par Christian Zacharias. Oui, Philippe, alors, à l'occasion de ce voyage à Paris, vous développez une idée qui, effectivement, là, est un peu provocante, finalement. Vous dites que la musique en France a toujours été et reste un problème. Ça, c'est sûr. Alors, il dit que Léopold apprécie les chœurs, mais juge que tout ce qui était pour des voix seules et qui devait ressembler à un air était vite glacé et misérable, c'est-à-dire bien français. Bon, vous savez simplement que le chant français, finalement, ce qu'on chantait, c'était l'héritage, à l'époque encore, de Mozart, de Rameau et de Lully. Enfin, de Lully et de Rameau. Donc, il y avait un style français que, effectivement, les étrangers ne comprenaient pas. La France était conservatrice de ce style-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Léopold ne comprenait rien lui non plus, parce que ce n'était pas de la musique nulle, c'était autre chose, c'était une autre forme, une autre manière, parce que tout le reste de l'Europe était italianisé, si l'on veut. Bon. Et alors, vous dites que l'Italie, théâtre et musique, n'irradie pas l'Hexagone, la grande aventure musicale, est-ce qu'elle suppose de liberté intime à lieu ailleurs? Gesualdo, Purcell, Monteverdi, Vivaldi, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Wagner ne sont pas français. Et il est peut-être temps de se demander pourquoi. Alors, pourquoi, alors, de votre part, cet anti-nationalisme, après tout, quand même, de Lully, Rameau, Berlioz, au XIXe siècle, qui est quand même fondamental. C'est le XIXe siècle que vous détestez. Enfin, disons que parmi ceux que vous détestez, Berlioz, il a sa place. Sans parler de Ravel, de Bussy, Fauré et quelques autres. On a quand même des musiciens en France.
Mais je n'ai pas dit le contraire. Bien sûr, il y a de grands musiciens. Je parle très précisément des rapports entre la langue et la musique.
Ah oui, alors ça, vous êtes pire que Rousseau.
Rousseau, vous savez, c'est pas rien.
Vous écrivez que la langue française, j'essaye de retrouver la page,
il y a un problème,
est inchantable. Alors ça, quand même, c'est extravagant.
Vous savez que Mozart, en 1700...
Les Mélodies de Forêt, Péléas et Mélisande, les opéras de Berlioz, alors là, tout ça, à la poubelle.
Mais allez. Non, pas à la poubelle.
Non, mais je veux dire, quand même.
Je dis qu'il y a un problème. C'est vous écoutez Debussy, en effet, Maeterlinck et
ça, c'est
D'Annunzio,
ça, c'est D'Annunzio.
Le martyr de Saint-Sébastien.
C'est pas de la faute de Debussy.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, mais ça, c'est,
vous
ça,
l'entendez.
C'est Maeterlinck et D'Annunzio, c'est pas Debussy. Quand Debussy met en musique
Mallarmé.
Mallarmé, c'est magnifique.
Oui, mais il n'y a pas les mots, il n'y a pas la verbalisation. Il y a un problème très précis sur le fait de savoir pourquoi le français, qui est une langue admirable de communication au XVIIIe, pleine d'esprit, la philosophie passe par la France à ce moment-là, pourquoi c'est une langue admirable, comme nul autre, pour des histoires de corps, en effet, pour exprimer l'érotisation des corps, etc. Deuxième avantage du français. Troisième avantage du français, c'est fabuleux, c'est la langue la plus apte à être, pas par hasard, plastique, c'est-à-dire pour parler de peinture. Ce sont les Français qui parlent le mieux et le plus savamment de la peinture. Voilà la grande force française. Cette force se paye, parce que les autres langues ne sont pas apprises. Toutes les langues sont belles. Le problème est de savoir quels sont leurs atouts ou leurs faiblesses. Se paye d'un certain retard qui peut s'expliquer de différentes façons, pour des raisons religieuses, pour des raisons de repli, de nationalisme, en effet, ensuite, se paye d'un retard en musique. Quelles sont les grandes langues de musique ?
À l'époque de Mozart.
À l'époque de Mozart, c'est flagrant.
Oui.
C'est flagrant, c'est-à-dire...
C'est pas une grande époque de musique française, c'est vrai.
Mais attendez, il est épouvanté lorsqu'il est à Paris. Après, ne nous pressons pas. Restons un peu sur la question de savoir pourquoi Mozart pense qu'il n'aurait jamais pu faire représenter un opéra à Paris. Hein, et pourquoi il est obligé, il va le faire à Vienne ou à Prague. Vous avez Haydn en pleine activité, vous allez avoir Beethoven bientôt. Vous avez eu Handel déjà avant, Bach, Handel. Bon, quelles sont les grandes langues de musique? C'est facile à voir. Le latin, bien sûr, puisque vous avez 150 messes, le latin, l'italien, ô combien, et là, perfidie de Mozart, magnifique revanche, la pièce de Beaumarchais, c'est lui qui demande à Da Ponte de l'adapter pour un livret, hein, le mariage de Figaro. Ah, vous n'avez pas voulu de moi à Paris, vous m'avez pas vu passer, c'est quand même un fait. Paris n'a pas vu passer Mozart. Sa mère est morte à Paris. Bon. Ah, vous n'avez pas voulu de moi. Ah, ben, vous avez une pièce là qui fait un peu scandale. Bon. Eh bien, moi, je vais vous la... Une pièce révolutionnaire. Hein? Nous sommes à quelques années de la Révolution française, la grande, la seule. Donc, vous n'avez pas voulu de moi. Eh bien, moi, je vais vous faire votre pièce de théâtre subversif et je vais vous la faire en italien. Les notes, c'est des figues. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et vous, évidemment, vous retenez que les noces de Figaro, c'est Mozart. Ça n'est pas ça n'est pas bon marché. Même chose pour le personnage de Don Giovanni, etc. Donc, la reprise qu'il fait des mythes, voilà, quelles sont les grandes langues? Le latin, messe, etc. Il a la messe en ut mineur, la grande messe en ut mineur de Mozart, vous écoutez l'Incarnatus Est et vous savez qu'il comprend très bien ce qu'il est en train de mettre en musique. Ce sont des mots qu'il faut comprendre. Si vous ne savez pas ce que veut dire Agnus Dei, Gloria, in excelsis Deo et Incarnatus Est, etc.
C'est dur de ne pas le savoir.
Je n'arrête pas de voir des gens qui ne savent absolument pas ce que veut dire Kyrie Eleison.
Parce qu'ils sont jeunes, Philippe.
Non, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes.
C'est parce
qu'ils ne le savent plus. Ils ne savent plus en latin, d'ailleurs. Il faut voir que cette musique a été faite en latin. Et qu'elle est admirable, et qu'il y en a des tonnes. Deuxième grande langue de musique, évidemment, l'italien. C'est d'ailleurs dans le fou filage de l'histoire, c'est comme ça. Et l'italien, ben alors, écoutez, on en exhume, là encore, ô combien. Bon, Bartoli nous arrive avec Mozart. Mozart, trois opéras italiens, quand même, extraordinaires. Bon, ensuite, vous avez évidemment l'allemand, Jean-Sébastien Bach. Und Gott sprach, c'est Dieu qui parle en allemand. Et bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ensuite, vous avez l'anglais, parce que Handel a fondé la couronne britannique avec aucun anglais n'est sans savoir ce que veut dire le Messie de Handel, c'est évident. C'est leur... Alors qu'en France, vous n'avez pas une unification musicale de cet ordre, à ce point-là. C'est un problème entre la langue et le chant. Et la musique, ce qui fait que souvent, quand vous avez du français chanté et mis en musique, comme on dit, par des musiciens extraordinaires d'ailleurs, vous avez une impression de maniérisme, de force. Ça ne va pas.